Ok, c'est bien. Donc, bienvenue à tous. Je suis toujours content de vous voir, c'est encourageant. Puis, on continue notre étude dans Ruth. On est dans le chapitre 2. On a fait jusqu'au verset 7 du chapitre 2, mais on va lire tout le chapitre. Et donc, quand on lit, ça nous remet dans le contexte. C'est qu'on va lire à partir du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée, et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs et on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle battit ce qu'elle avait glané. Et il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, on va demander au Seigneur de nous aider. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour ce temps, on te remercie pour tous ceux qui sont connectés avec nous pour pouvoir ensemble regarder dans ta parole les choses qui font notre joie, notre Dieu, parce que quand on découvre des choses de ta parole, ça nous encourage, ça nous fortifie, puis ça nous fait connaître ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, puis on peut dire vraiment que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Merci encore une fois, notre Dieu. Puis on te demande ta bénédiction sur chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait parlé que Boaz était introduit, le projecteur est mis sur lui dans le verset 1, mais Ruth va le découvrir à travers les circonstances. On a vu qu'elle elle voulait aller glaner, puis on avait dit que glaner, ben, c'est comme un système que Dieu avait donné à Israël pour prendre soin des indigents, des veuves, des orphelins, des gens qui étaient dans la pauvreté. Ils pouvaient aller dans les champs de ceux qui avaient la moisson, ceux qui avaient de l'abondance, puis on les laissait glaner, on leur laissait même un coin ou des endroits où leur laissait des épis qu'ils pouvaient glaner pour subvenir à leurs besoins, puis aussi aux besoins de leur famille. Et on voit que maintenant, elle cherche l'endroit où elle va trouver grâce. Puis elle se retrouve dans le champ de Boaz. Boaz qui est vraiment un parent, un proche parent de son mari, du père de son mari, Élimélec. Mais il avait le droit de rachat qu'on va voir plus tard. Puis il va racheter pour relever le nom du défunt. Parce que en Israël, quand il y avait quelqu'un mourait, il fallait que son héritage reste dans la famille. Puis, vu qu'il n'y avait pas d'enfant, ben, le plus proche parent qui était disponible, parce qu'il fallait qu'il soit disponible, pouvait prendre la femme du défunt et susciter une postérité. C'est ça qu'on voit dans ce livre-là. Mais on avait comparé le champ, la moisson, on va comparer ça à l'assemblée avec les moissonneurs, ceux qui œuvrent dans la parole pour enseigner les autres, les servantes qui recueillent aussi la moisson. Et c'est comme ceux qui sont dans l'assemblée qui se nourrissent de la parole de Dieu tout ensemble pour grandir dans la parole de Dieu. On avait vu la dernière fois que le serviteur qui n'est pas nommé, on avait dit que ça nous faisait penser au Saint-Esprit qui était là pour surveiller les moissonneurs. On sait que le Saint-Esprit, ben, c'est lui qui a été donné pour diriger l'Assemblée. Dans les Actes, on voit beaucoup que l'Assemblée était dirigée, l'Église était dirigée par le Saint-Esprit. Puis quand le Saint-Esprit a la place, qu'on lui donne la place pour diriger, ben lui, il peut faire le travail et on voit que ça donne du résultat. Mais maintenant, on arrive au verset 8, puis là, c'est vraiment le moment où Boaz s'adresse à. On avait terminé là la semaine passée. Puis là, ici, Boaz s'adresse directement à Ruth. C'est le contact, le premier contact entre Boaz et Ruth. Puis c'est lui qui vient, il a demandé les informations au serviteur. Le serviteur lui a donné, et puis il avait demandé, on avait vu, il a dit, à qui est cette jeune femme? Donc, c'était vraiment intéressé à elle, à qui elle appartenait. Mais on sait, puis là, son mari était mort, fait qu'elle était veuve. Mais quand il s'adresse à elle, on voit ici, il dit au verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Donc, puis il lui dit aussi, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Donc, elle avait demandé à Naomi de pouvoir aller dans le champ de celui avec qui elle trouverait grâce. Puis on voit ici que c'est ce qui lui est manifesté par Boaz, elle peut trouver grâce. Mais vous savez, c'est un merveilleux moment quand la première fois qu'on rentre en contact avec le Seigneur. C'est au point du salut, quand on est sauvé, c'est là qu'on entend, il s'adresse à nous. Puis ceux qui sont sauvés peuvent vraiment se souvenir de ce moment-là où avant, on pouvait lire la Bible, mais ça ne s'adressait pas directement à nous. Mais tout d'un coup, avec le Saint-Esprit qui nous éclaire, tout d'un coup, la parole de Dieu s'adresse à nous, s'adresse personnellement à nous. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. Des fois, il y a une expression qui dit « j'ai vu la lumière », ou « la lumière s'est allumée », ou c'est que tout d'un coup, la parole de Dieu nous parle dans notre situation. Puis, c'est certain qu'à ce moment-là, C'est notre situation de péché qui, on est convaincu de péché par le Saint-Esprit. Puis on est convaincu aussi qu'il y a un seul moyen de salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pas une religion, c'est vraiment la personne du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu. Il est un sauveur. Puis il est venu pour nous sauver. Donc c'était vraiment un moment merveilleux quand il entre en contact avec nous. Mais c'est le début si on choisit de mettre notre confiance en lui pour le salut de nos âmes. Ben, c'est le début d'une relation. Puis c'est une relation qui va durer toute l'éternité. Ça va au-delà de la vie ici sur la terre. Le Seigneur avait dit, celui qui vit et qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc, c'est une relation éternelle qui s'établit entre nous et le Seigneur. Puis cette relation éternelle, quand on est sauvé, eh bien, on est gardé par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, c'est vraiment une relation merveilleuse qui est établie sur l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix pour nos péchés. Il a pris nos péchés en son corps sur le bois. Puis, pour notre foi, en retour de notre foi dans son œuvre, il nous donne la vie éternelle. C'est pas comme dans la religion. Ben, dans la religion, ça, si on persévère, si on continue, si on fait assez, si on va peut-être l'avoir, mais avec le Seigneur Jésus, c'est vraiment le salut parfait qui était accompli par lui. Puis parce que son sacrifice est parfait, on a une assurance merveilleuse que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Donc, il s'adresse à elle personnellement. Puis c'est un peu comme on voit dans Samuel, quand il a grandi, il était apporté au temple avec Élie. Puis, le temps d'assignation, il n'y avait pas le temple dans ce temps-là. Mais Élie était là, puis Samuel était venu pour le servir. Puis Samuel était couché le soir, puis il a entendu Samuel, Samuel. C'est que là, tout de suite, il s'est levé, puis il est allé pour aller voir Élie, pensant que c'était Élie qui l'appelait. Puis Élie dit non, je ne t'ai pas appelé, c'est qu'il est retourné se coucher. Puis après qu'il a été couché, à un moment donné, il a entendu encore Samuel, Samuel. Puis là, il dit, ben là, il s'est relevé encore, puis il est allé voir Élie. Et Élie, finalement, finit par réaliser que c'était le Seigneur qui l'appelait. Puis il a dit à Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 7, il dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais là, Élie a dit, ben, quand tu vas entendre Samuel, Samuel, tu diras, parle, Seigneur, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Puis là, c'est là que le Seigneur a commencé à s'adresser à Samuel, puis ça a duré toute la vie. Samuel était un serviteur, un prophète en Israël. Puis il a servi le Seigneur en servant le peuple de Dieu. Puis c'était une relation merveilleuse. Mais c'est beau la façon qu'il s'adresse à elle. Il lui dit, écoute, ma fille. Puis quand on parle de, c'est un terme d'intimité ici, là. Écoute, ma fille. Puis là, il va lui donner des instructions qui vont être importantes. Puis il lui dit, ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Donc, il lui demande la séparation. Elle est à Bethléem, Juda, il y avait d'autres champs, mais il lui dit de rester dans ses champs, de ne pas glaner dans un autre champ, puis de pas s'éloigner. La relation avec le Seigneur nous demande la séparation de toute autre chose. C'est pour ça que quand on met notre confiance en lui, eh bien, on doit renoncer à toutes les autres choses sur lesquelles on se confiait auparavant. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec un autre. On ne peut pas être sauvé à moitié avec d'autres choses que lui, puis lui aussi. C'est tout lui ou c'est rien du tout. Il y a des gens qui disent, si le Seigneur n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est que le Seigneur, il veut l'exclusivité dans notre vie. S'il va nous sauver, la gloire ne revient pas à aucun autre parce qu'il n'y en a aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement lui qui est mort sur la croix, qui a accompli l'œuvre parfaite, qui a été reçue par le Père, parce qu'il en a donné la preuve en le ressuscitant des morts. Parce que le Seigneur Jésus est mort selon les Écritures, il a été enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mais donc la relation avec Boaz va demander la séparation. Mais s'il demande la séparation, c'est que lui il va être suffisant pour tous les besoins. Fait que Ruth n'aura pas besoin d'aller dans un autre champ. Il va s'assurer que Ruth va avoir en tout ce qu'elle a besoin. Le Seigneur, comme on en a parlé, quand il dit c'est le Très-Haut, Naomi l'avait appelé le Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant, c'est dans le sens de tout suffisant. C'est que le Seigneur, s'il nous demande d'être se séparer du reste, c'est que lui il va être suffisant pour tous nos besoins. On trouve tout ce qu'on a besoin en lui, là. C'est vraiment merveilleux de voir ça. Il va avoir la provision pour tous ses besoins. Puis il lui dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Fait que c'est là qu'elle va trouver ce qu'elle a besoin. Mais quand il demande la séparation, c'est que lui va être suffisant. Puis dans Colossiens 2:10, Paul dit aux Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, on a de l'abondance avec le Seigneur Jésus, puis on n'a pas besoin d'autre que lui. Lui est suffisant pour tout ce qu'on va avoir besoin, toutes les situations qu'on va rencontrer à travers toute notre vie ici sur la terre. Le Seigneur va toujours être la solution pour nos besoins. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. Là, puis les instructions qu'il lui a données, c'est de ne pas aller dans d'autres champs, de rester avec ses servantes. Puis la belle-mère de Ruth va l'encourager à obéir. Voyez-vous, versets 21 à 23, elle lui dit, Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec, puis elle va obéir, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Un cœur partagé, le Seigneur ne veut pas un cœur partagé, il veut vraiment un cœur entier dévoué pour lui, puis comme il va être suffisant, puis Ruth, elle va obéir, puis en obéissant, elle va trouver vraiment la récompense qu'elle recherche avec lui. Mais en plus d'être suffisant, il lui offre aussi la protection. Il dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, puis c'est dans le sens de lui toucher pour la blesser ou lui faire du mal. Fait qu'il dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, fait qu'il prend soin d'elle aussi, la protection. Mais il la prend sous sa charge, puis il lui montre sa grâce. Ceux qui sont sauvés sont dépendants de la grâce du Seigneur. On a été sauvés par la grâce, puis on va marcher par la grâce aussi. Le Seigneur va nous donner toujours. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est ça que ça veut dire, la grâce, une faveur imméritée. Puis on va avoir constamment des faveurs imméritées que le Seigneur va continuer de nous donner dans tous nos besoins, dans toutes les situations qu'on va rencontrer. Même quand on est dans la maladie, dans les épreuves, dans les persécutions, le Seigneur, il nous dit que dans 2 Corinthiens, qu'il va nous consoler de toutes nos tribulations, de toutes. Puis avec la consolation qu'il nous donne, on peut consoler les autres aussi. C'est vraiment merveilleux. On n'a pas besoin d'aller à d'autres que lui dans tous nos besoins. Mais il lui montre sa grâce aussi parce qu'il lui offre de l'eau. Quand il lui dit au verset 9, il dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Fait qu'il lui offre, ses serviteurs ont puisé de l'eau, puis il lui offre de l'eau. Ça, c'est vraiment une grâce qu'il lui donne parce que Moab, elle vient de Moab, puis Moab avait refusé aux enfants d'Israël. Ils avaient refusé de l'eau quand ils ont passé. Ils avaient refusé la nourriture et de l'eau à Israël quand ils sont sortis d'Égypte, puis qu'ils s'en allaient vers le pays de Canaan. Quand ils ont passé sur le territoire de Moab, ils l'ont refusé de l'eau. Puis dans Néhémie 13, 1 à 2, parce que il y avait des fils de la captivité qui avaient pris des femmes moabites, ammonites et tout ça, puis ils ne devaient pas le faire. Dans le chapitre 13 de Néhémie, au verset 1 à 2, il dit: Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse, mais Dieu changea la bénédiction en bénédiction. C'est ça qui est arrivé, parce que Balaam, il était appelé pour les maudire. Puis quand il venait pour faire son oracle, mais au lieu de les maudire, il les bénissait. Puis Balak était vraiment. Il était pas de bonne humeur parce que il dit: Je t'ai appelé pour que tu maudisses le peuple, là, ça fait 3 fois que tu le bénis. Mais Balaam, il dit: Je t'ai dit que je pourrais pas dire autre chose que qu'est-ce que Dieu disait. Puis Dieu, il ne pouvait pas maudire son peuple parce que c'est son peuple racheté. Mais Boaz, ici, il lui offre de l'eau, puis il va lui offrir aussi du pain. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, nous autres, on est comme ça aussi. On a besoin de cette grâce-là. Puis le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il nous donne ces choses-là. Mais dans le verset 10, on voit la réaction de Ruth, là. Elle reste empreinte. Sa réaction est empreinte d'humilité, mais aussi d'émerveillement. Elle dit, alors, elle tomba sur sa face. En tombant sur sa face, elle s'humilie devant lui. Puis vous savez, c'est toujours bon de s'approcher du Seigneur. On peut s'approcher de lui, mais toujours dans l'humilité. On ne s'approche pas du Seigneur dans l'arrogance. On s'approche du Seigneur dans l'humilité à cause de sa grandeur. Quand on ne peut pas s'imaginer comment il est grand, mais on vient avec assurance parce qu'on sait qu'il nous est favorable. Puis elle dit ici, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit: Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Donc, elle réalise que tout ce que Boaz a fait pour elle, c'est vraiment la grâce. Puis, c'est ça quand on est sauvé, c'est ça qu'on a réalisé, qu'on n'a rien, on pouvait rien réclamer parce que Paul, quand il regardait à sa situation, lui, il dit, si on peut se confier dans la chair, dans Philippiens 3, il dit, moi, bien plus, parce qu'il était israélite et il était de la tribu de Benjamin, une tribu qui était vraiment importante. Et il avait été circoncis le 8e jour. Puis toutes les choses de la religion que Paul pouvait réclamer. Ben, devant l'excellence. Peut-être qu'on va aller dans Philippiens 3 pour un moment parce que c'est vraiment une expérience qu'on doit faire. Puis Paul l'a fait. Paul était, il était vraiment un homme qui était haut dans la religion. Il était placé, il était pharisien, puis tout ça. Mais devant l'excellence de Christ, il a tout abandonné pour recevoir Christ. Il dit au verset 7 du chapitre 3 de Philippiens, mais il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous savez, c'est ça qui est vraiment merveilleux. Quand on change pour quelque chose de meilleur. C'est comme des fois, je dis ça, j'ai dit, si vous voulez changer d'auto avec moi, ben, si votre auto est meilleure que la mienne, je vais changer, mais si elle n'est pas meilleure, je ne changerai pas. Fait qu'on change pour quelque chose de meilleur. Puis Paul, il disait aussi au verset 4 du chapitre 3, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Puis là, il énumère qu'est-ce que lui, il y avait dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, c'est vraiment Paul a fait cette expérience-là. Puis elle aussi a dit, comment que tu t'es intéressée à moi qui suis une étrangère? Puis elle voit vraiment, elle ne réclame rien, mais elle reçoit tout ce que lui vient de Boaz. Mais il faut toujours se souvenir de la grâce de Dieu envers nous. Vous savez, des fois, mon frère dit ça, des fois, il dit, on est venu au Seigneur à genoux, puis quand on ne peut plus se mettre à genoux, il y a un problème. C'est vrai. Donc, il faut toujours se souvenir de la grâce de Dieu envers nous. Puis ça va nous garder dans l'humilité. Éphésiens 2:12 nous dit, souvenez-vous que vous étiez. Donc, souvenez-vous de ce que vous étiez auparavant, avant d'être en Christ. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était triste, notre situation avant d'être sauvé, parce qu'on n'avait pas part à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous dans sa grâce. On dit de Georges Müller que quand des orphelins arrivaient, parce que lui, Georges Müller, il a eu des orphelinats avec jusqu'à 7 000 orphelins. Mais ces orphelins-là, c'était des gens qui étaient destitués, c'est des gens qui étaient dans la rue. À ce temps-là, il y avait pas d'endroit. Puis lui, il avait construit, par la foi, il avait construit des maisons pour abriter ces orphelins-là. Non seulement il les abritait, il les nourrissait et il les habillait et il les instruisait aussi. C'était tout. D'un côté, il n'y avait aucune position sociale, il était dans la rue. Puis là, il y avait une maison, il y avait la nourriture, il y avait le vêtement, puis aussi l'éducation. Puis on dit qu'il prenait une photo des orphelins quand ils arrivaient, parce que si jamais ils devenaient arrogants ou qu'il leur montrait, regarde, c'est de là que tu viens. C'est que tout était par grâce. Puis nous autres aussi, on a besoin de toujours se rappeler de ça. Il faut toujours rester humble, malgré le grand privilège accordé. Parce que la grâce de Dieu, c'est tellement merveilleux, c'est tellement grand. Il nous donne une place, puis on va le voir avec Ruth, elle va avoir une place de choix vraiment merveilleux parce qu'elle n'avait rien du tout, mais elle va finir avec, elle va être dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Elle va être l'épouse de Boaz, celui qui a toute cette richesse-là, puis cette bonté-là. Mais Ruth, elle va rester humble malgré le grand privilège à. Mais au verset 11, il dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté, elle a dit, pourquoi tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Mais quand même, il prend note de ce qu'il dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Donc, on lui avait rapporté, Ruth faisait une bonne impression envers les gens, parce qu'elle était une étrangère, oui, mais elle était arrivée au pays de Bethléem, à Bethléem, Juda. Elle était arrivée là, puis avec sa belle-mère, Naomi, sa belle-mère était connue, les gens ont reconnu Naomi, mais Ruth était nouvelle, elle n'avait jamais demeuré à Bethléem, mais elle a fait une impression. Comme on a dit, la ville était émue quand ils sont arrivés. Puis sûrement que le sujet de conversation, c'était que Naomi était revenue, puis avec sa belle-fille, la veuve de son garçon qui était venue avec elle, ça faisait une impression. Puis on lui avait rapporté à Boaz qu'est-ce qu'elle avait fait pour sa belle-mère. Donc, elle prenait soin de sa belle-mère depuis la mort de son mari. Parce que Naomi, en étant que son mari à elle était mort, Élimélec, ben Maclon, c'était son fils premier-né. Donc, c'est lui qui avait la responsabilité de prendre soin de sa mère qui était veuve. Puis aussi, Kiljon, il devait prendre soin aussi. Mais étant mort, eux, ils sont morts aussi. Donc, ils ne pouvaient plus prendre soin de Naomi. Mais Ruth, elle, comme une amie fidèle, elle a pris en charge de prendre soin de Naomi qui était dans le besoin. Puis on le voit, là, elle va glaner, puis elle va amener la nourriture, puis elle va la partager avec Naomi. Parce qu'elle a la capacité d'aller glaner dans les champs, mais elle pense à sa belle-mère aussi. Puis il dit, on m'a rapporté, Boaz avait vu ces choses-là. Mais aussi, il mentionne qu'elle a quitté son père et sa mère. Il dit, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance? Dans le chapitre 1, au verset 8, Naomi avait offert à ses belles-filles de retourner dans la maison de leur mère. Elle n'avait pas mentionné le père, parce qu'on a dit que la mère représente l'affection, elle représente ce qui est plaisant dans la maison. Donc, c'est la relation, l'affection, ce qui est plaisant. Mais Boaz, lui, il mentionne le père. Puis le père nous parle de l'affiliation de la maison. Le pays de Moab, donc cette maison-là, elle était dans le pays de Moab. Elle était affiliée à Moab, le pays de Moab avec ses coutumes, mais aussi ses dieux. Parce que Moab avait des dieux différents d'Israël. Il y avait plusieurs dieux. Puis, je dis ça des fois, ceux qui en ont plusieurs, c'est parce qu'ils sont pas assez, sont pas suffisants. Mais nous, on a un qui est suffisant. Mais c'était toute la vie de Moab qu'elle a laissée pour rechercher le Dieu d'Israël, pour rechercher les coutumes d'Israël, le peuple d'Israël. Elle changeait complètement. Elle n'amenait pas son bagage. Elle partait avec rien pour chercher la grâce dans le pays d'Israël. On sait que Rachel, la femme de Jacob, en partant, quand Jacob il a fui pour Laban pour s'en retourner dans le pays d'Israël, eh bien, il a amené ses femmes puis ses enfants. Puis Rachel, elle avait dérobé les dieux de son père. Fait que là, son père, ben, il n'était pas de bonne humeur, puis il est allé, puis il a dit à Jacob, il dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père. Fait qu'il voulait retourner dans la maison de son père. Lui. Là, il était avec Laban à Padan-Aram, mais il dit, tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Mais Jacob n'était pas au courant, puis il a dit, ben, fouille, celui qui va avoir tes dieux, là, ben, il va être puni. Mais Jacob, au verset 32, il nous dit, Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Finalement, elle les a cachés, puis Laban ne les a pas trouvés, mais elle avait emmené les dieux de son père. Puis, mais c'est un peu la même pensée, mais Ruth, elle n'avait pas emmené les dieux de Moab. Elle avait tout quitté. Elle avait quitté la maison de son père, l'affiliation de la maison de son père, pour chercher refuge avec le Dieu d'Israël, dans le verset 12. Que l'Éternel, puis le Seigneur ici, cherchait la récompense tout entière, puis dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, elle est venue se réfugier. Mais ici, la promesse, c'est comme le souhait, mais c'est une promesse que Boaz y fait envers Naomi, que de trouver la récompense. Elle l'a cherchée, elle a cherché au bon endroit, puis elle va trouver une grande récompense avec le Dieu d'Israël, dans le pays d'Israël. Elle ne sera plus avec. Ce ne sera plus une Moabite, ça va être maintenant, elle va faire partie d'Israël. Puis c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Vous savez, les gens des nations, ils devaient judaïser. On les appelait dans le Nouveau Testament, on les appelle des prosélytes, des gens qui se sont détachés de leur nation pour s'attacher à la nation d'Israël, parce que la nation d'Israël, c'est le peuple d'Israël, c'était le peuple que Dieu avait choisi dans l'Ancien Testament pour proclamer le message de salut aux nations. Mais on devait venir puis rechercher Israël. Mais elle va avoir une grande récompense de la part de Dieu d'Israël. Mais au verset 13, elle dit, Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Fait que c'est elle reconnaît que l'accès à cette grande récompense, ben, c'est Boaz lui-même. Puis là, elle dit que, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. C'est qu'elle sait que ça va être lui. Puis c'est la même chose pour nous autres. C'est en Christ qu'on trouve toutes les bénédictions de Dieu. On a déjà mentionné, il dit dans Éphésiens 1:3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Puis là, il énumère toutes les bénédictions. Mais c'est important de réaliser que toutes ces bénédictions-là qui sont en Christ, on ne les avait pas avant d'être en Christ. Quand on était en Adam, quand on n'avait pas encore transféré du monde au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on n'avait aucune de ces bénédictions-là. Mais maintenant, en Christ, on les a tous. Il y a des gens, des fois, qui recherchent les bénédictions spirituelles. Bien, on les a. On les a, il nous reste à les découvrir. C'est comme un cadeau qu'on reçoit. Quand on reçoit le cadeau, ben, tout ce qui est à l'intérieur du cadeau, on ne l'a pas encore découvert. Mais c'est à nous autres. Il nous appartient du moment qu'on a reçu ce cadeau-là. Il est tout à nous. Puis après ça, on commence à déballer pour voir ce qu'on a reçu. C'est un peu comme ça avec le Seigneur. Quand on reçoit toutes les bénédictions, au moment du salut, on reçoit toutes les bénédictions spirituelles. Mais on passe la vie chrétienne est passée à découvrir ce que ça inclut, toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Puis c'est vraiment merveilleux, vous savez, on n'en arrivera pas au bout. Mais au verset 14, on voit maintenant qu'il dit, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Maintenant, il va la nourrir d'une nourriture nouvelle. Puis c'est important, quand on vient au Seigneur, on a une nourriture nouvelle. Puis comme le Seigneur avait dit dans Matthieu 4:4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est quand le diable l'avait amené dans le désert pour le tenter. Puis il lui avait dit, parce que le Seigneur avait jeûné pendant 40 jours, puis il eut faim. Puis Satan lui avait dit, voici, il y avait des pierres, puis il dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Puis le Seigneur Jésus n'a pas voulu, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis pour l'enfant de Dieu qui est né de nouveau maintenant, il y a une nouvelle nourriture, c'est la parole de Dieu. Comme on a besoin pour notre corps physique, comme on a besoin de se nourrir, bien, on a aussi besoin pour cette nouvelle vie qui vient en nous, cette nouvelle nature en nous a besoin de se nourrir, puis elle va se nourrir de la parole de Dieu. Vous savez, pour un chrétien qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, ben, il ne pourra pas grandir. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu pour grandir, mais aussi même pour être sauvé. Parce que dans Romains 10, 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a des gens qui disent, ah ben, j'ai une grande foi. Ou ils vont parler de quelqu'un d'autre, puis ils vont dire, il a une grande foi. Puis moi, je demande une foi dans quoi? Parce que c'est bien beau d'avoir une grande foi, mais si la grande foi est dans le mauvais objet, ben, ça donne rien. C'est un peu comme si j'avais une grande foi de marcher sur une glace mince, ben, je vais m'enfoncer à travers la glace. Mais si j'ai une petite foi dans une glace qui est épaisse, je vais pas m'enfoncer à travers la glace. L'objet de la foi est beaucoup plus important que la foi. Parce que mais comment est-ce qu'on peut avoir la foi si on ne connaît pas le Seigneur Jésus? Il y a des gens qui ils vont dire, ah ben moi je lui parle tout le temps. Ben moi je dis, c'est plus important que lui te parle. Parce qu'on a besoin d'entendre sa parole. Puis c'est pour ça que de dire que je parle à Dieu. Lui, on n'a pas besoin d'y parler. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Mais nous autres, on a besoin de savoir qu'est-ce que lui a à nous dire. C'est très important. Ici, Boaz, il donne des instructions importantes à Ruth. Mais c'est vraiment important qu'on puisse entendre la parole de Dieu. Il faut savoir c'est quoi qu'on croit. Il faut connaître le Seigneur Jésus pour croire. Mais elle est dans le bon endroit, là. Parce que dans le champ de Boaz, Ben, l'activité, c'est, comme on avait parlé, les moissonneurs moissonnent dans la parole de Dieu. Puis quand ils parlent, puis elle est parmi ses servantes, puis les moissonneurs, puis elle va être avec eux, entourée de la parole de Dieu. Puis c'est comme ça que dans l'assemblée, la parole de Dieu doit avoir une grande place. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'assemblée sans leur Bible. On a besoin de notre Bible. Notre Bible, c'est un outil qu'on doit toujours avoir avec nous autres. Notre Bible, c'est un trésor précieux parce que c'est là qu'on ta parole, où il y a un chant qui dit, où j'aime aller me reposer. Puis quand on va se reposer dans la parole de Dieu, bien, le Seigneur nous parle, il nous communique. Puis on a vraiment besoin de ça. Comme on a dit, premièrement pour le salut, mais ensuite, après qu'on est sauvé, bien, la parole est importante. Au début de ma vie chrétienne, j'étais vraiment content. Je lisais un livre, c'était Si tu veux aller loin de Ralph Challis. Puis lui, il mettait beaucoup d'emphase que si on voulait aller loin, il fallait lire la parole de Dieu chaque jour. Puis lui, il proposait de lire la parole de Dieu une fois par année, au moins. Il mettait des buts. Il disait, dans 5 ans, qu'est-ce que ça va être? Dans 10 ans, dans 15 ans. Puis c'est vrai. Moi, j'ai suivi son conseil, puis je remercie le Seigneur. Puis surtout quand on est jeune, vous savez, c'est important d'être dans la parole de Dieu, parce que qu'est-ce qu'on apprend quand on est jeune, ça reste avec nous autres. Vous savez, dans la religion, on a appris des prières que je ne veux même plus les connaître, ces prières-là, puis je les récite jamais, mais je les sais encore, parce que je les ai apprises dans mon enfance. Puis il y avait une dame qui disait, elle avait un magasin, puis elle disait que tous les numéros de ses articles qu'elle avait, elle s'en rappelle encore. Elle s'en rappelait encore. Même si elle ne voulait pas s'en rappeler, elle n'avait plus besoin parce qu'elle n'avait plus le magasin. Fait que c'est important, comme il dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Puis c'est vrai, un chrétien ne peut pas se passer. Autant. On ne peut pas se passer de la nourriture physique pour notre corps, on ne peut pas se passer de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. C'est vraiment important. Mais elle était dans un bon endroit parce que la moisson, ben, ça représente vraiment c'est de sortir de la parole de Dieu les choses qui sont importantes. Puis Boaz lui a dit, approche, mange du pain. Il a dit, approche-toi puis mange du pain. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 6, 56, il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous savez, la religion nous dit maintenant, ben, faut prendre la communion. Puis les autres, ils disent que si on prend la communion, on va vivre. Mais c'est pas ça que le Seigneur il disait. Le Seigneur, il parlait en parabole dans un sens, puis il l'explique. C'est pas de prendre physiquement le pain puis le vin, mais le Seigneur l'explique. Il dit dans le verset 34 à 35, ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc, ils sont là. Il leur dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Puis eux, ils disent, celui qui va manger ce pain va vivre éternellement. Puis les autres, ils disent, ben, donne-nous toujours ce pain. Puis là, le Seigneur va leur expliquer comment ils peuvent prendre le pain. Puis il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Fait il nous explique qu'est-ce qu'il veut dire ici, là. Donc, de manger le pain, c'est de venir à lui. Comme on a dit tantôt, il faut venir à lui pour le connaître. Comment qu'on peut mettre notre confiance en lui si on ne le connaît pas? Il faut savoir les détails de la personne du Seigneur Jésus-Christ pour mettre notre confiance en lui. Vous savez, moi, si vous ne me connaissez pas, je ne peux pas mettre votre confiance en moi. Vous ne savez pas, je peux être un menteur. Mais c'est dans la connaissance, quand on apprend à connaître quelqu'un, qu'on peut avoir notre confiance en lui. Parce qu'on peut le connaître. Mais le Seigneur Jésus, quand on le connaît, c'est là, on vient à lui. Il faut venir prendre connaissance de qui il est. Puis après ça, il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, c'est ça que ça veut dire. Un coup qu'on a pris conscience de lui, on a pris connaissance de lui, maintenant, on peut mettre notre confiance en lui. Puis c'est comme manger son corps, puis manger sa chair puis boire son sang. C'est ça que ça veut dire. C'est pas littéralement, mais c'est un langage figuré. Puis mais c'est ça qu'on a besoin pour être sauvé, c'est de venir à lui puis de croire en lui. Mais même après qu'on est sauvé, on a besoin de constamment venir à lui puis de croire en lui parce qu'il va nous diriger. Mais c'est pas tout de prendre conscience du Seigneur Jésus. Il y a des gens qui vont prendre conscience, mais il reste la responsabilité qu'on a après qu'on a pris conscience. Ben, il faut mettre notre confiance en lui pour pouvoir être sauvé. Et puis là, il lui dit ici, trempe ton morceau dans le vinaigre. Là, il lui a donné du pain, puis il dit, trempe ton morceau dans le vinaigre. Puis ici, quand on parle du vinaigre, là, mais ici, il est question de prendre connaissance des souffrances du Seigneur Jésus pour nous sauver de nos péchés. Puis ça, c'est important. Vous savez, quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il avait soif, on lui a donné du vinaigre. Mais quand on mange le vinaigre, c'est comme en Israël, quand ils prenaient la Pâque, il y avait des herbes amères. Mais pourquoi manger des herbes amères? Si c'est amer, on aime mieux ce qui est doux, ce qui est sucré, mais ce qui est amer. Mais ça nous parle des souffrances du Seigneur Jésus. Ça, c'est là qu'on. C'est quand on réalise comment il a souffert sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Lui, il n'avait pas besoin de le faire. C'est un peu comme le brigand sur la croix. Tout d'un coup, il a réalisé que le Seigneur Jésus, qui était au milieu des deux, il a dit à l'autre, il a vu que le Seigneur souffrait, mais pas pour son péché, parce qu'il n'en avait pas. Puis il a dit à son compagnon, il a dit, ne crains-tu point Dieu, toi qui subis les mêmes souffrances? Puis il dit, pour nous, c'est justice, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Puis là, il s'est tourné vers le Seigneur. Quand il a vu les souffrances du Seigneur Jésus, si ce n'était pas pour ses péchés, parce qu'il n'en avait pas, mais ça devait être pour lui, parce que lui, il en avait des péchés. Ce qui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Puis le Seigneur, il l'a sauvé à ce moment-là. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, j'avais rencontré quelqu'un une fois, elle m'avait dit, quand j'ai commencé à lui parler du Seigneur, elle dit, ah, dis-moi, j'ai un péché dans ma vie, mais ce n'est pas grave. Puis j'ai dit, ah non, ce n'est pas grave. Ben, j'ai dit, va demander au Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix, puis qu'il a souffert pour ce péché-là, va lui demander comment grave que c'est. Ben là, elle dit, ouais, là, c'est fort, ça. Mais c'est là qu'on juge la gravité du péché. Quand on juge dans la souffrance que le Seigneur Jésus a dû subir pour nos péchés. Puis il l'a fait pour nos péchés à nous. Parce que lui, il n'en avait pas de péché. Mais il était sans péché, mais il a souffert, il a accepté l'ignominie, la croix. Puis, quand on pense aux souffrances du Seigneur Jésus, on peut voir, nous autres, facilement la croix, la couronne d'épines, le fouet, les clous qui ont percé ses mains, ses pieds, comment son dos était labouré comme un champ. On peut voir les souffrances physiques du Seigneur Jésus. Vous savez, Mel Gibson, dans son film, il a montré des souffrances physiques, puis il y a des gens qui pleuraient, mais ça n'a rien donné. Ils ont continué à vivre leur vie comme auparavant. Mais il y a des souffrances que le Seigneur a subies qu'on ne voit pas. Dans les offrandes, dans l'Ancien Testament, il y avait l'offrande était dans l'offrande de farine était dans une poêle. Dans une poêle, on pouvait la voir. Ça parle des souffrances physiques du Seigneur Jésus. Mais il y avait des fois, l'offrande était mise au fourneau. Au fourneau, on ne pouvait pas voir. Puis ça représente les souffrances morales du Seigneur Jésus. Comment il a souffert de la part de Dieu à cause de notre péché. Il a reçu le jugement que nous méritaient nos crimes. Il a subi à notre place. Il y a un hymne qui dit, dans un moment de temps, il a subi l'éternité de mon châtiment. Puis c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, ça. C'est pour ça qu'il dit, trempe ton morceau dans le vinaigre. Parce qu'elle devait prendre connaissance de ces souffrances-là. Puis, dans Lamentation 1,12, ben, c'est Jérémie qui parle de ses souffrances. Mais ça, on peut voir plus loin que Jérémie. On peut voir le Seigneur Jésus. Puis, il dit dans Lamentation 1,12, je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. Fait que le Seigneur Jésus, vous savez, il a pris nos péchés en son corps sur le bois, puis il a fait face au jugement de Dieu à notre place. Il y a un cantique en anglais qui dit que l'épée de Dieu était enflammée. Puis il dit que son cœur était son fourreau. Ça fait qu'il a mis l'épée dans le fourreau, dans le cœur du Seigneur Jésus. Puis il dit maintenant, l'épée est plus pour nous autres. Pour ceux qui sont sauvés, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment merveilleux que c'est le salut en Jésus-Christ. Vous savez, on n'aura jamais à faire face à la colère de Dieu parce que le Seigneur Jésus y a fait face à notre place. Puis il y a des gens qui pensent, même les chrétiens, qui pensent qu'on va passer à travers la tribulation. Mais la tribulation, c'est la colère de Dieu sur le monde. Mais nous, on n'a pas à subir la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus, il a subi à notre place. Puis il va nous épargner, il va nous sortir de la terre dans l'enlèvement avant de juger les habitants de la terre. Parce que nous, on est des citoyens des cieux. On appartient, on attend le Seigneur Jésus qui va venir nous délivrer de la colère à venir. C'est que je m'arrête là. On est rendu à 52 pour qu'on puisse avoir un temps s'il y a des questions ou s'il y a des choses qu'on veut partager. C'est que je vous donne la possibilité de reprendre votre micro, puis je m'arrête ici. Attendez un petit peu. OK, maintenant, vous pouvez prendre votre micro. Si jamais ça ne marche pas, laissez-moi savoir, faites-moi signe, puis je vais vous donner votre micro.
Je veux revenir. Merci, Gérald. Je relis le verset 2-8.
2-8, OK.
Ouais. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille. Ça me rappelle des beaux souvenirs, ça, parce que il y avait un frère qui venait à l'assemblée, puis quand il s'adressait à Nadia,
OK.
il disait, écoute, ma fille. Alors, ça rappelle, si M. Poulain, peut-être vous l'avez connu, M. Poulain, hein? C'est un
Non, moi je l'ai pas connu.
Homme vraiment spécial. C'est un forgeron autrefois.
OK.
Alors, il dit, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servants. Et quand tu as lu ça, bien, je pensais à ce verset qui dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. On voit qu'à travers Boaz, il veut avoir Ruth sous ses ailes. Hein? Alors, c'est ce qu'il désire pour chacun de nous aussi. Ouais. Être sous les ailes du Seigneur. C'est merveilleux. Merci, merci beaucoup.
C'est un terme d'affection quand tu dis écoute ma fille. Parce qu'il y a un intérêt.
Gérald, tu m'entends-tu?
Oui, on t'entend, oui.
OK. J'aimerais revenir sur le verset 11 un petit peu à partir de la moitié du verset. Comment tu as quitté ton père, ta mère, le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant? Dans ce verset-là, oui, par rapport à nous, avant qu'on vienne au Seigneur, on a quitté nos parents, notre famille, le monde, ben, nous autres, Sainte-Marie. On a quitté ce monde-là pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point. Bon, un peuple qu'on connaissait pas, mais c'est des croyants. On appartient au Seigneur. Bon, on ne connaissait pas les croyants. Il faut passer par la nouvelle naissance pour connaître le Seigneur. Puis en même temps, bon, on connaît les croyants qui sont nés de nouveau, eux autres aussi. Puis c'est par nous autres même, on ne peut pas aller là. Ça prend la puissance de Dieu. C'est lui qui nous attire à lui. C'est lui qui permet ça. C'est de quoi de merveilleux pour chacun de nous. C'est un peuple qu'on a une espérance éternelle. Dans l'éternité, on va être réunis tous ensemble. Ça ne finit pas à la mort. Ça continue. Même ça va être encore plus beau, être dans la présence de Dieu, voir le Seigneur face à face, dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire. C'est ça qui nous attend. C'est sur la terre, ce n'est pas toujours facile, mais quand on regarde vers l'éternité, c'est là que ça va être le plus beau. Donc, je voulais partager ça un petit peu par rapport à ce verset-là.
Bien, souvent, quand on vient au Seigneur, c'est ça, on perd des amis. Puis moi, quand je suis venu au Seigneur, c'est ça, bien, quand on leur parle du Seigneur, bien, ils nous rejettent. Puis je lisais dans la parole que le Seigneur disait, si quelqu'un qui a laissé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il va en avoir au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Puis je ne comprenais pas, mais je me disais, le Seigneur, il dit, c'est vrai. Puis c'est vrai parce que le peu que j'ai perdu en ami, puis j'en ai gagné maintenant. Ma mère, elle disait ça des fois, elle disait, toi, tu as des amis partout. On peut aller partout, puis on rencontre des frères et sœurs, puis c'est merveilleux. Tout de suite, le lien est là, puis on... Mais même mon père, il me disait à un moment donné, il dit, t'aimes mieux les chrétiens que ta propre famille. Puis j'ai pas parlé parce que c'était vrai, mais je me suis dit, dans un sens, j'ai dit, c'est parce que nous autres, on a une relation dans le Seigneur qui est éternelle. Puis on a les mêmes intérêts. Mais d'un autre côté, je ne me sentais pas coupable parce que je me suis dit, j'aime mieux, même si j'aime plus les chrétiens que ma famille, je me suis dit, j'aime plus ma famille maintenant que je suis chrétien qu'avant que je le sois. Mais le Seigneur, d'un côté, il a béni aussi parce que mes quatre frères ont été sauvés, puis une de mes sœurs, puis mon père, puis ma mère, ce que ça a pris du temps, mais c'est arrivé.
Tantôt, notre frère Lévi nous a parlé qu'il était un peu comme sous les ailes de Boaz, mais regardez au verset 12, elle est aussi sous les ailes de l'Éternel. Donc, il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, on voit vraiment que Ruth, elle était vraiment en bonne position sous la protection de Boaz, mais aussi sous la protection de l'Éternel. Et c'est un peu une récompense que Ruth, quand elle dit, Boaz, t'as quitté ton père, ta mère, et même ton pays et tes dieux pour venir te réfugier sous les ailes de l'Éternel. C'est une grande récompense de la foi de Ruth, je crois aussi. Et aussi pour ce qu'elle avait fait pour sa belle-mère, Naomi. Bien, ça, moi, je trouve ça merveilleux aussi.
Ouais, c'est ça, on n'est pas perdant quand on change pour le Seigneur.
Merci Raymond, ça fait du bien d'entendre ça aussi. Un bon verset.
La vie chrétienne, c'est bon pendant qu'on vit ici sur la terre, puis ça va être encore meilleur quand on va mourir.
Ou que le Seigneur revienne.
Ouais, ou que ça lui revienne, c'est ça.
Je veux dire, comme une sœur nous a dit cette semaine, a dit Raymond disait qu'on priait pour être enlevé, pour être là quand le Seigneur venait chercher son Église. Mais elle dit les morts, ceux qui sont déjà morts, dit, ils vont partir avant nous autres, fait qu'on sera peut-être mieux d'être morts.
Ouais, ils vont venir nous rejoindre, ils vont ressusciter premièrement. Mais...
Il n'y aura pas grande différence dans le temps.
C'est parce qu'ils vont
Non,
venir de...
probablement pas,
C'est parce qu'ils sont plus loin que nous autres. Nous sont en dessous de la terre. C'est qu'ils vont nous rejoindre, puis là, ensemble, on va aller à la rencontre du Seigneur sur la nuit. Bon, mais le temps est arrivé. On va prier pour terminer. Ceux qui doivent partir pourront partir. Puis s'il y en a qui veulent parler, bien, on pourra jaser. Seigneur notre Dieu, on te remercie. Ça fait des choses merveilleuses pour nous. Oui, Seigneur, on a laissé derrière le monde et toutes ces choses-là, mais on a trouvé en toi, Seigneur, ce qui est plus merveilleux. Puis on te remercie, tu es tellement grand. Ta grâce est merveilleuse, Seigneur. Puis tu es tout suffisant pour tous les besoins qu'on rencontre. On te remercie pour ça, notre Dieu. On te demande de nous donner de toujours se réjouir en toi. puis de glorifier ton nom. Au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.